Chapitre 4. Marie. Les mois passèrent vite au manoir de Drosselmeyer. La neige fondit, remplacée par les fraîches averses du printemps, puis par les chaudes brises de l'été. Marie s'habituait à sa nouvelle existence. Elle découvrit rapidement que son oncle faisait tourner sa propriété comme une machine bien huilée. Les repas, les leçons, et même le temps libre, tout était régenté méticuleusement par les domestiques. Mais la fillette ne s'en plaignait pas. Le personnel était toujours aimable avec elle, et Marie se réjouissait de vivre dans un tel cadre. Tout était toujours en ordre. Le plus dur, c'était la nuit, quand elle se retrouvait seule avec ses pensées. Ses parents lui manquaient toujours atrocement. Son sommeil, quand elle parvenait à s'endormir, était agité, peuplé de cauchemars dans lesquels elle appelait ses parents dans le noir, mais ne recevait en retour que l'écho de sa propre voix. Elle n'en disait jamais rien au domestique, de crainte qu'il la juge ingrate. « Marie, lui disait-on, tu as encore les yeux tout cernés, quelque chose ne va pas ?»«
Je vais bien, merci, » répondait-elle.
Parfois, lorsqu'elle jouait dans le jardin, le parfum des roses lui rappelait son père, qui en cultivait dans des pots, chez eux. Ou bien il lui semblait sentir quelqu'un lui passer la main dans le dos pendant qu'elle jouait à la poupée, comme sa mère faisait quand venait l'heure du dîner. C'est dans ces moments-là que l'enfant courait retrouver la précieuse boîte à musique que lui avait offerte Drosselmeyer. Elle l'ouvrait, écoutait sa douce mélodie et s'imaginait que l'amour de ses parents se trouvait au creux de cet œuf.
« Moi aussi je vous aime »,
murmurait-elle ensuite. Ce que Marie préférait dans sa nouvelle vie, c'étaient les leçons que Drosselmeyer lui prodiguait. Il lui ouvrait de nouveaux horizons. Elle oubliait ses tracas. L'homme avait commencé par les rudiments. Les montres, les pendules, les jouets, les gadgets. Mais la fillette apprenait vite. Elle acquérait en un clin d'œil chaque technique. Bientôt, elle secondait son maître sur ses derniers prototypes. Charrette à moteur, montgolfière mécanique, et même un tapis roulant qui faisait le tour de la propriété, grâce auquel les deux créateurs pouvaient déplacer des objets sans quitter leur chaise. « Quel petit génie !» répétait Drosselmeyer, impressionné à la fin de chaque leçon. « Si tu continues à ce rythme-là, c'est moi qui vais devenir ton élève. » Marie ne levait pas le pied. Ses travaux lui donnaient un but dans la vie, lui apportaient l'apaisement. Avec chaque nouveauté, c'est comme si elle contrôlait un peu plus le monde. Pour une petite fille dont les rêves regorgeaient de fumée et de brume, c'était une sensation d'une grande puissance. L'été fit place à l'hiver. Noël revint, puis repartit. Et un autre après cela. Chaque année, Drosselmeyer demandait à Marie ce qui lui ferait plaisir pour Noël. Et elle répondait invariablement « une fête ». L'homme ordonnait alors aux cuisines de préparer les plats préférés de l'enfant. À ceux de ses serviteurs qui pratiquaient un instrument de musique, il réclamait une performance. Et il dansait avec Marie dans la salle de bal autour du grand sapin. Marie grandit, ses mains se firent plus sûres pour les inventions de Drosselmeyer. Sa gouvernante aborda des disciplines plus pointues. En un clin d'œil, 3 ans eurent passé. Marie avait à présent 10 ans, et il lui semblait qu'elle avait toujours vécu au manoir. Une seule chose lui manquait, la compagnie d'autres enfants. Elle avait certes le droit d'accompagner les domestiques en ville chaque fois que son emploi du temps le lui permettait, mais elle avait bien du mal à se faire des amis. Son existence au manoir était nimbée de mystère. Marie intriguait, fascinait les gens. Hélas, les parents hésitaient à inviter chez eux la protégée d'un personnage comme Drosselmeyer, ou à suggérer qu'il les invite. Et comme les enfants ne pouvaient se déplacer librement, Marie passait le plus clair de son temps seule. Cela ne la dérangeait pas outre mesure. Du moment qu'elle avait auprès d'elle son oncle et ses inventions, elle était heureuse. Et lorsqu'elle n'étudiait pas, ni ne jouait à la poupée dans le jardin, les domestiques savaient où la trouver. Dans l'atelier du maître. Un après-midi, après ses leçons, Marie travaillait à une invention particulièrement compliquée. Drosselmeyer, en voyage d'affaires depuis plusieurs jours, ne devait rentrer que le lendemain. Marie en avait profité pour achever un nouveau mécanisme. Une ballerine évoluant sur une scène. Un observateur peu attentif l'aurait sûrement prise pour une marionnette. Mais à mieux y regarder, on constatait que la ballerine dansait sans intervention extérieure. Marie scrutait les moindres détails à l'aide de sa loupe.
« On y est presque, fait drager, » dit-elle à sa poupée assise près d'elle sur l'établi.
C'était le seul souvenir concret qu'elle gardait de son ancienne vie. Marie ne s'en séparait jamais.
Un an ou deux auparavant, elle avait commis l'erreur d'aller prendre sa leçon auprès de sa gouvernante en s'affichant avec la fée dragée. La dame l'avait grondée si fort que Marie n'avait jamais recommencé. Depuis, elle cachait sa poupée dans son cartable, ou même sous ses jupes, si nécessaire. C'était un peu puéril, elle le savait bien, mais la fée dragée l'accompagnait depuis si longtemps. Elle était déjà avec elle avant l'incendie. Et voilà, annonça Marie après un ultime tour de vis. La ballerine était terminée. La fillette écarta la loupe de devant son œil et remonta le mécanisme de sa création à l'aide d'une clé. La danseuse prit vie et se mit à enchaîner les entrechats sur la piste. « Parfaite !» sourit fièrement Marie. « Oncle Drosselmeyer va être fou de joie !» Elle se tourna vers la fée dragée. Les membres en porcelaine de la poupée reposaient sur l'établi, ses cheveux de soie rose en chignon sur son crâne. Elle était superbe, mais immobile. « Si seulement j'arrivais à te faire danser toi aussi !» souffla Marie. « Tu serais époustouflante !» La fillette promena son regard sur les différents jouets qui peuplaient l'atelier. Des ours, des soldats, un singe musicien. Fascinant, certes, mais pas aussi magnifique que la fée dragée. La ballerine arriva au bout de son élan. Elle inclina la tête, baissa les bras, s'immobilisa. Marie l'étudia de près. Puis elle observa la fée dragée. La poupée disposait d'articulations en tissu aux coudes, aux genoux et aux poignets. Il suffirait de remplacer le tissu par des rouages, songea Marie. Son regard oscillait toujours entre la ballerine et la fée dragée. Ce serait si simple. Le lendemain, à l'aube, Drosselmeyer rentra de voyage épuisé. Il comptait simplement déposer ses outils dans son atelier avant de regagner ses appartements. Mais à sa grande surprise, il trouva les becs de gaz allumés et Marie qui dormait à poings fermés, la tête appuyée sur l'établi. « Marie ?» chuchota-t-il pour l'éveiller en douceur. « Tu as passé la nuit ici ?» La fillette remua, s'éclaircit la voix. « Pardonnez-moi, mon oncle, je me suis endormie en travaillant. » Drosselmeyer porta son attention sur l'établi. Une jolie poupée mécanique dansait sans l'aide d'un marionnettiste. « Je vois cela, » répondit-il. « Tu as achevé la ballerine. Félicitations. » L'homme s'interrompit. Il observait la poupée aux cheveux roses qui valsait elle aussi à l'autre bout de la table. « Mais ce n'est pas la danseuse sur laquelle nous travaillons ?» s'étonna-t-il. Cette poupée effectua une pirouette sur les pointes. « Ne serait-ce pas ta poupée ?» reprit Drosselmeyer abasourdi. « Si, » lui avoua Marie, toute fière. « Elle est superbe, hein ? Mais comment diable as-tu pu la mécaniser ?»« Cela m'a pris la nuit entière. » Ses articulations étaient en tissu, je les ai remplacées par des rouages. L'intérieur de la porcelaine étant creux, j'ai pu y fourrer les pièces du mécanisme. C'était tout simple une fois que je m'y suis mise. Presque comme si elle avait été faite pour ça. Incroyable, souffla Drosselmeyer. Vous trouvez vraiment ? Le relança Marie. Vraiment, oui. La fée dragée pivota pour faire face au maître. Sa tête s'inclina. On la dirait quasiment vivante. Jugea-t-il.